Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Starcast.fr. Je suis Antonin et je suis en compagnie de Nearius, Onizuka et Bulnatic. On va commencer par se présenter un petit peu rapidement pour exposer un peu nos façons de jouer et notre expérience dans StarCraft 2. Donc je vais commencer et puis les autres se calqueront un petit peu sur moi. Donc moi, comme je l'ai dit, je m'appelle Antonin. In-game, je m'appelle Alcoolique. Je joue à StarCraft 2 depuis la sortie du jeu en France. Et j'ai simplement décidé en fait de lancer ce podcast avec ces trois autres personnes pour essayer de relayer un peu toute l'information qui existe sur StarCraft 2 en France. Je vais laisser ensuite Bulnatic vous parler de son expérience.
Yo, salut, moi c'est Bulnatic, je m'appelle Jimmy, j'ai 18 ans, j'ai commencé à jouer à StarCraft 2 à la bêta. Puis j'ai décidé d'acheter le jeu parce que c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé intéressant au début et dont j'ai tout de suite vu le potentiel. J'ai voulu faire ce podcast quand Antonin l'a proposé parce que je trouve que c'est quelque chose qui manquait à la communauté. Donc c'est une idée intéressante et on va voir comment ça marche.
Donc voilà, Nearius, tu peux continuer.
Alors moi c'est Nearius, donc joueur sur StarCraft 2 et également sur Brood War à l'époque. Je suis là un petit peu pour représenter la noobitude de la communauté, parce qu'il n'y a pas que des pro-gamers. Voilà, ça c'est dit, c'est avoué. Je connais le jeu, mais je suis pas bon. Je joue depuis le début et je suis toujours en Ligue Bronze. Et cherchez pas à me trouver parce que je me cache.
Voilà, et Onizuka, à ton tour.
Et bien moi, c'est Onizuka. Je fais un peu concurrence à Nearius. Je sais pas lequel d'entre nous est le plus noob, mais je crois qu'il y a... C'est plus ou moins équivalent. Et au niveau FPS, j'ai joué un peu aux anciens Warcraft. Mais ça s'arrête là. Sinon, sur StarCraft, je joue depuis la sortie. Et ouais, je crois que je suis plutôt mauvais.
Alors, pour le déroulement de ce podcast, on vous fera à chaque épisode une partie tout d'abord news. On va essayer de recenser un petit peu tout ce qui se passe sur StarCraft et sur la communauté. Ensuite, Bulnatic ou un autre pourra vous faire la catégorie le mode du jour. Donc le mode du jour, ça explique un petit peu une carte personnalisée, des choses comme ça. Ensuite, moi-même, je vous ferai la partie histoire, en vous rappelant l'histoire d'un personnage ou d'une race, par exemple, dans StarCraft 2, StarCraft 1, etc. Et puis ensuite, on terminera par une partie fourre-tout. Donc on va commencer tout de suite sur les news. Alors première news, le patch 1.2.0 qui est donc sorti mercredi comme vous avez pu le voir sur les serveurs européens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer rapidement en revue toutes les nouveautés. Alors la première et pas des moindres, il y a les canaux de discussion de Battle.net qui ont été ajoutés au jeu. Alors est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ça?
Moi j'ai pas d'amis.
D'accord, donc déjà tout de suite, ça peut te permettre d'en trouver des amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui naviguent sur ces canaux.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer ses propres canaux. C'est vraiment pas mal.
Oui, c'est vrai, c'est pas mal, parce que du coup, il y a pas mal de teams qui peuvent se parler in-game sans avoir un TS ou ce genre de choses.
Ça va peut-être aussi permettre aux joueurs de bas niveau d'organiser des petits tournois également, de rassembler tout le monde dans une room, sans avoir besoin forcément d'un soft ou d'un site ou d'un forum à côté pour pouvoir communiquer entre les games.
Ça va être très pratique.
Alors après, moi je suis pas allé voir pour l'instant si on pouvait mettre des mots de passe à ces canaux ou s'ils sont ouverts à tous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le nom du canal, on peut le rejoindre.
Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Il
me semble pas le patch note.
Le patch note parle pas de mots de passe. Donc canaux publics et privés, donc oui, il doit y avoir des mots de passe, des canaux uniquement accessibles sur invitation.
Par contre, bon. Tu peux créer des canaux, enfin dans les canaux, tu peux inviter les joueurs qui ont un real ID.
Oui.
On sait inviter des joueurs qui sont, par exemple, World of Warcraft. Par contre, ils ne savent pas rejoindre. Mais tu sais les inviter. Donc peut-être qu'à long terme, Blizzard va créer des canaux propres à Battle.net et donc sur lesquels on pourrait être sur différents jeux.
Et avec Diablo 3, quand il sera sorti également.
Ouais, voilà, comme ça on pourra avoir des canaux, on pourra discuter Warcraft, Starcraft et Diablo et se foutre sur la gueule pour savoir quel est le meilleur jeu.
On sait pas rejoindre, on sait juste les sélectionner, cliquer sur inviter, et après on dit juste qu'il n'est pas dans le jeu.
Voilà. Alors, il y a eu notamment une énorme news aussi dans ce patch 1.2.0, c'est la ligue maître qui a été ajoutée au jeu. Donc cette ligue, elle est au-dessus de la ligue diamant. Donc on rappelle, maintenant il y a bronze, argent, or, platine, diamant, maître. Ils ont également parlé d'ajouter une nouvelle ligue au prochain patch qui serait la ligue grand maître. Alors déjà, on va parler un petit peu de la ligue maître. Donc apparemment, la ligue maître, ça concerne 5%, il me semble, des joueurs diamants. 2% des joueurs diamants.
Oui, c'est environ 200 c'est joueurs.
Environ les 200 meilleurs joueurs
par région.
C'est beaucoup plus.
Environ, joueurs, ils ont pris les 200% supérieurs.
Oui, c'est 200 joueurs par région. Alors, ils ont également ajouté autre chose. Alors, ça, personnellement, ça, bon, voilà. Un ajout de détection des situations bloquées. Alors, qu'est-ce qu'une situation bloquée ? Vous vous retrouvez dans un match, il n'y a plus de probe, donc il n'y a plus de récolteur, on va parler. Donc il n'y a plus de récolteur, plus de possibilités de création de récolteur, plus, par exemple, d'armée, il reste, je sais pas moi, un zergling pour le zerg et un zilote. Et donc là, le jeu serait capable de déterminer qu'il y a, que le jeu est bloqué, donc, et il y aura match nul pour les joueurs.
C'est vraiment des situations extrêmes, il y en a vraiment très peu. À la limite, voilà. C'est dans des cas de all-in contre all-in.
D'outils de détection, ça va être intéressant, mais je suis pas sûr que ça touche grand monde. Une dernière news, alors il y a beaucoup de gens qui s'en foutent totalement. Moi, je pense que c'est quand même intéressant. Il y a une option graphique qui a été ajoutée. Et donc, ça s'appelle l'option graphique extrême. Donc, en clair, vous avez faible, moyen, ultra, je sais plus comment ça s'appelle. Et au-dessus de ça, vous avez extrême. Donc ça, en fait, ça inclut que le jeu évolue en quelque sorte avec les, avec la sortie des machines, etc. Donc là, les gens qui ont vraiment une machine très 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 récente, et je connais quelqu'un qui a une machine comme ça, joue vraiment à un jeu qui est très très beau.
Oh mais non, Blizzard, à ce niveau-là, il n'y a jamais eu de soucis. Hein. Regarde les anciens jeux qui sont sortis il y a 10 ans, ils sont toujours mis à jour. Ils sont...
Ah oui, ça c'est sûr, ils ont un suivi au niveau de leur jeu. D'ailleurs, c'est ça qui leur apporte leur... Parce que Blizzard, ils vendent quand même le MMORPG le plus joué au monde, je pense qu'on peut le dire, donc c'est World of Warcraft. Ils vendent un DSTR qui est, s'il n'est pas le plus joué, du moins le plus connu au monde, donc StarCraft. Ils ont aussi vendu Warcraft 3, qui est un jeu qui a été... qui a fait un carton mémorable. Et ils ont aussi des RPG tout simples. Alors tout simple, c'est-à-dire seulement des RPG qui ne se jouent pas en ligne, Diablo. Donc ils sont vraiment sur tous les terrains. Donc là c'est sûr, ils sont en train. Franchement, si vous avez des sous, investissez dans les actions Blizzard, Blizzard Activision. Mettez des sous là-dedans.
Plus Blizzard qu'Activision d'ailleurs.
Ah oui, ouais, mais il y a aussi Activision. Parce que maintenant en plus ils sont avec Activision. Activision vend énormément de copies de Call of Duty en ce moment. Ça cartonne très bien. Ils ont fait des gros chiffres au moment de la sortie de Black Ops. Qui soit dit en passant, j'ai trouvé très mauvais, mais enfin bon, après ça c'est mon avis. Mais là, ils sont vraiment en train de devenir les meilleurs en MMO, en STR, en FPS.
Et en hack and slash.
Et en hack and slash. Donc voilà, c'est vraiment bien. Bon, sinon, il y a eu pas mal d'autres améliorations, d'autres choses qui ont été mises en place dans le patch 1.2, donc 0. Alors, bon, on va directement parler des modifications qui sont relatives aux races. Alors pour les Protoss, le coût de l'observateur a été diminué, bon. Ouais. Le temps de construction des phénix a été diminué, alors ça...
Ça par contre, ça c'est de l'abus, mais...
Voilà.
À 10 secondes de moins, c'est énorme.
Alors on va vous expliquer à quoi sert le phénix pour les joueurs Protoss. Car en fait, le phénix c'est pas si puissant que ça en tant qu'unité, mais c'est une unité qui est très rapide, je pense qu'on pourra pas critiquer ça.
C'est la plus rapide du jeu.
Voilà, et donc avec cette unité, en clair, vous scoutez d'un bout à l'autre de la map pendant 45 secondes, chrono. Quoi. Donc maintenant, le phénix, il se construit en seulement 35 secondes.
Au lieu de 45.
Au lieu de 45. 10 secondes, ça fait beaucoup pour les joueurs haut niveau. Bon, pour d'autres, ça ne fait pas grand-chose. Les Void Ray infligent maintenant 20% de dégâts en plus aux cibles lourdes. Des commentaires, peut-être ? Bah 20% de dégâts, c'est quand même...
Non mais les cibles lourdes, il n'y en a pas des masses. Il y a les ultralisques, les colosses et les torts.
Ouais, donc...
Protoss, un bas.
Parce que là, en fait, c'est une mauvaise... mauvaise traduction du patch note. C'est vraiment juste les cibles massives. Donc en fait, je pense que Blizzard a upé les dislockers juste pour pouvoir s'en servir comme contre. contre les Colosses en Protoss versus Protoss, parce que ce match-up était un petit peu bloqué vu le manque de contre.
C'est vrai qu'un Protoss s'il tombe contre des Colosses avant, oui c'est vrai que ça peut être intéressant dans ce cas-là. Mais bon, c'est vrai que 20% ça fait beaucoup d'un coup, peut-être. Ça aurait dû faire 10% à ce match-là, puis 10%. Ouais. On est de mauvaise foi, hein, mais voilà. Alors donc maintenant je passe au Terran. Alors Terran, ils ont eu des modifications sur leur VCS. Bon, alors une modification qui est inhérente au schéma de déplacement en fait des VCS pendant la construction d'un bâtiment. Personnellement, j'ai pas vu la différence. Si quelqu'un, bon voilà. Alors j'ai l'impression qu'en fait c'est quand il tourne, vous savez, autour du bâtiment avec sa petite pince et sa perceuse. Bon, apparemment il se déplace d'une façon plus cohérente d'après Bizarre. Bon, très bien. Il y a quelque chose qui a été modifié aussi, alors là je le vois pas dans ma page notes, c'est bizarre. Il me semble que maintenant les VCS ne peuvent plus construire un bâtiment quand ils sont dans le bunker adjacent. Et ça ne marche plus. Bon. Okay. Je le vois pas là dans le page notes, c'est peut-être un oubli.
Pour les Terran aussi, il y a une dernière modification, t'as pas parlé sur les SCV. C'est qu'en fait les SCV génèrent autant de menaces que les unités combattantes qui le réparent.
Oui, j'ai vu ça aussi.
Donc,
oui.
Enfin, moi, je joue aux Zerg en diamant, et le nombre de fois où j'ai pu voir deux Thor ruiner totalement mon armée parce qu'ils étaient réparés par des SCV et qu'on pouvait rien faire, à part cibler les SCV un par un, mais c'était long, fastidieux, et au final, on se faisait casser les dents. Donc là, en fait, les SCV, dès qu'ils réparent, ils ont autant de menaces que l'unité combattante. Ce qui fait que, ouais, par exemple, en envoyant quelques Zerglings, une fois que les SCV se seront mis à réparer, on pourra les tuer.
Oui, ça fait un bel ajout.
Ouais.
Un peu moins de micro en versus Terran sur les unités lourdes.
Ouais, donc, voilà.
On sait sur les SCV, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment énorme.
Bon, je pense que ça représente pas grand chose pour les joueurs de notre niveau, Nerius, n'est-ce pas? Qui
c'est
sont
ça.
Donc. Globalement, bronze, argent, or, platine, les jours heureux. Donc, mais c'est sûr que ça, c'est des choses qui peuvent représenter beaucoup pour les joueurs diamants. Donc, l'éditeur StarCraft 2, il y a eu énormément de choses qui ont été ajoutées, donc des événements que vous pouvez créer, etc. Alors, je me suis jamais servi de ça. Ça a l'air d'être un outil quand même très puissant, sachant qu'en plus, il y a des gens qui font des mods vraiment excellents avec.
Pour ceux qui font un petit peu de programmation, c'est presque un langage de programmation à part entière. D'ailleurs, il y a la gestion des algorithmes dedans, enfin c'est vraiment un truc complet, mais une fois qu'on a compris comment ça marchait, tout roule.
Pas mal, donc énormément de corrections de bugs graphiques, des choses comme ça. Bon, rien de très intéressant.
Non, il y a quand même un gros truc auquel beaucoup de monde est passé à côté. Moi aussi d'ailleurs, je l'ai découvert il y a pas trop longtemps. Il y a eu l'ajout des raccourcis personnalisables.
Oui, j'allais venir.
Ah.
Mais c'est pas grave. Bah si tu veux, on peut même carrément en parler maintenant. Alors l'ajout des raccourcis personnalisables, c'est vas-y si tu veux dire un mot dessus.
J'ai vu que beaucoup de monde réclamait ça depuis la sortie du jeu. Moi, je trouve pas ça utile. Je joue en mode gris depuis que le jeu est sorti parce que je trouve ça pratique. Donc voilà, c'est un truc qui était attendu par tout le monde et au final j'ai vu que ça faisait pas beaucoup de bruit. Dont beaucoup de personnes sont passées à côté. Je trouvais ça étrange. Mais...
Alors il y a un truc qui est assez intéressant à savoir, c'est que avant, donc il était possible de changer les raccourcis évidemment en allant bidouiller un petit peu dans les entrailles du jeu. Le fait est qu'en fait, c'était interdit de faire ça. Et donc les gens qui changeaient leur raccourci personnalisable, par exemple, ne pouvaient pas participer à des cups françaises ou des choses comme ça. Franchement, je trouve ça un peu bête, mais bon. Ils ont bien fait de l'intégrer, comme ça, au moins, ça calme le débat et chacun met les raccourcis qu'il veut.
Ouais, ça évite les hacks aussi.
Oui, aussi, oui. Et puis, voilà, ça évitera aux gens, parce qu'il y a des gens qui, du coup, mettent plein de petits carrés blancs sur leur touche de clavier pour les voir instinctivement et pouvoir cliquer dessus, pouvoir appuyer dessus très rapidement. Bon, ça, c'est les joueurs encore d'un niveau très élevé. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près du patch 1.2.0. Donc, ouais. En clair, en résumé, il y a eu l'ajout des canaux de discussion, la ligue maître, les raccourcis personnalisables, la détection des situations bloquées, la nouvelle option graphique, donc ça inclut que Blizzard est vraiment, suit vraiment le développement de ce jeu, et puis une grande série de corrections de bugs relatives au jeu en lui-même ou à l'éditeur de map. On va oh. pouvoir passer... Ah, tu veux, vas-y, tu veux peut-être dire quelque chose ?
On revient peut-être un petit peu sur la ligue maître.
Alors oui, on va revenir sur la ligue maître avec Onizuka qui va nous en parler un petit peu.
Par rapport à ce qu'on a déjà dit, il n'y a pas grand-chose à rajouter, me semble.
Oui, c'est vrai qu'on a déjà un peu...
On a déjà un peu tout dit, puisqu'ils ont pris les 2% des meilleurs joueurs donc du jeu, et les ont mis dans une ligue maître. Donc, par après, ils comptent rajouter une autre ligue. Grand
la
maître.
Ligue grand maître, oui.
Grand maître, ouais. Un truc qu'on a peut-être pas dit, c'est que ils vont réinitialiser un jour les classements. Ça, vous inquiétez pas, ils préviendront avant. Mais le niveau, lui, ne sera pas réinitialisé en même temps que les classements.
Alors,
je vois pas concrètement qu'est-ce que ça change, puisque pour moi le niveau c'était justement le classement.
Alors moi justement, j'ai un petit souci avec ce classement là. Je suis dans une ligue en 2C2. Et dans cette ligue là, on est en bronze, car on a bêtement passé tous nos matchs de préparation en pensant qu'on n'en aurait pas besoin parce qu'on est trop fort. Et évidemment on les a tous perdus, on s'est retrouvé en bronze parce qu'on commençait juste le jeu. Et il y a un souci en fait, c'est que les 10 premiers de ma ligue, donc je fais partie, on est deuxième, culminent à des nombres de points mais invraisemblables, c'est-à-dire que nous on doit être à 2400, je suis comme ça, le premier est à 2800 points, et on ne change pas de ligue, et on a un ratio qui est vraiment assez bon, on joue contre des ligues bien supérieures, donc on joue contre de l'or et du platine, on gagne environ 50% de nos matchs contre eux, et nos ligues ne changent pas. Ça, c'est vraiment très frustrant. Je sais pas si c'est seulement inhérent à ma ligue ou s'il y a ce problème-là pour beaucoup de monde. Mais il y a vraiment un souci, là. C'est-à-dire que le classement n'a pas changé depuis 2 mois, il me semble. C'est toujours les mêmes personnes qui sont dans la ligue.
Ben, c'est pas qu'il y a un souci. Enfin, je sais pas, peut-être. Mais c'est que Blizzard cache vraiment leur système pour affiner les ligues. Pour voir qui va passer, qui va rester, si t'as le droit de monter. C'est vraiment un système complexe, mais de ce qu'on a pu en retirer, il y a plusieurs trucs qui jouent, comme le ratio, le nombre de parties.
Ouais,
il faut qu'il y en ait quand même un peu. Enfin, c'est assez compliqué à savoir, mais faut jouer, quoi.
Voilà, faut jouer pas mal. Bon, en même temps, faut pas que jouer pour le classement, mais c'est vrai que c'est quand même sympa de voir son classement évoluer, et de pouvoir se la péter quand on est dans une ligue un peu plus haute. Enfin, voilà. Ensuite, maintenant on va laisser la parole à Nerius qui va nous parler un petit peu du fonctionnement, et justement on va revenir là-dessus en fait, de la façon avec laquelle Battle.net travaille pour gérer les matchs, les points, les placements, les ligues, etc.
Alors voilà, c'est un post du blog qui est paru en décembre de l'année dernière sur le blog de Blizzard. Et qui explique effectivement leur mode de calcul pour les classements et les alignements de joueurs, et qui revient alors plus précisément sur un outil statistique qu'ils utilisent pour balancer les races, pour analyser qui sera laquelle est avantagée vis-à-vis d'une autre, à la fois par région et également par ligue. Alors c'est un système qui prend en compte toutes les statistiques de toutes les parties qui sont jouées en ladder. Donc c'est des millions de games, c'est des centaines de milliers de joueurs. Et ça prend en plus en compte alors le fameux indice de compétence des joueurs, qui est une donnée absolument obscure que seul Blizzard connaît, qui serait un indice qu'on aurait tous sur notre compte Battle.net et qui indique si on est réellement bon ou si on est complètement mal classé. Ce qui est peut-être ton cas, Antonin, avec ta position en Ligue Bronze malgré tes stats. Donc ce calcul, il revient donc sur par région et en global uniquement pour la Ligue Diamant, Donc les calculs datent d'il y a 3 mois, puisque c'est novembre 2010. Il n'y a donc pas de Master League non plus, puisque c'était avant le patch 1.2. Blizzard précise aussi qu'il y a une marge d'erreur de 5% qui est à prendre en compte sur les calculs. Donc on est à un ratio, tant qu'il est entre 60 et 40, acceptable. Au-delà, c'est un déséquilibre qui est quand même flagrant sur l'affrontement entre les races. Alors, je vais peut-être pas vous détailler les pourcentages par région et par diamant, simplement par de quelques remarques. Alors, je sais pas si vous avez lu le post avant ou pas du tout.
Oui, on l'a parcouru. Enfin, moi, je l'ai regardé rapidement.
Mais... Ouais, alors, on remarque, à part dans la Ligue Diamant de la région Europe, un avantage Protoss contre Terran assez important, qui oscille entre 55 et 60% de victoire, ce que je trouve assez énorme, assez contrebalancé. Et à l'inverse, un léger désavantage Protoss contre Zerg. Donc on a les Protoss qui sont en léger avantage de partout, sauf en Diamant Europe, à croire que ça ne veut rien dire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros joueurs en Ligue Diamant Terran, ce qui fait que ça contrebalance un petit peu les résultats. On remarque aussi donc la faiblesse des Terran dans la Ligue Diamant US et Corée. Mais ça, c'est pas nouveau. Pareil, quand on regarde ce qui se fait en e-sport, on remarque que c'est plus les Protoss et les Zerg qui en 1 contre 1 et 2 contre 2 qui sont avantagés. Et le quasi-équilibre des Zerg sur les autres races, quelles que soient les ligues. Par contre, on n'a pas de détails sur... en même temps, ça servirait pas à grand-chose sur une race contre elle-même en match miroir. Donc ça, c'est à peu près tout. Ça reste des chiffres globaux d'analyse pour Blizzard. Ça veut pas forcément dire grand-chose, surtout pour des joueurs à haut niveau, où le choix de la race est clairement une question d'affinité et de maîtrise, et plus moins une question d'affrontement et d'avantage, et d'équilibrage des races. Et je reviendrai aussi sur un exemple comme la map spécifique Lost Temple, qui donne par exemple l'avantage au Terran en versus Zerg. Et on se retrouve souvent avec des matchs miroirs Terran contre Terran, et beaucoup moins de Zerg, puisque la map est contrebalancée. Après, c'est vrai qu'au niveau des Protoss, le problème se pose un peu moins. Donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait sur ce post, qui date d'il y a 3 mois maintenant. Et j'ai cherché, il n'y a toujours pas de nouveaux chiffres. Donc le rééquilibrage par le patch 1.2 n'a pas encore été annoncé.
Ouais, ils ont peut-être pas aussi publié les nouveaux chiffres. Quoi. Ils les ont sûrement, mais ils doivent pas les avoir publiés.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Eh ben merci beaucoup pour cette petite review. Alors maintenant, on va laisser Bulle nous parler un petit peu de la scène pro-gaming française dans StarCraft 2.
Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais StarCraft 2, ça commence vraiment, enfin l'e-sport en général, ça commence vraiment à devenir un sport. Et comme dans tous les sports, on a des transferts. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont dans une équipe, puis qui vont dans l'autre. Donc là, je parlerai surtout de la scène française. Il y a eu quelques grosses nouvelles ces temps-ci. Donc la première dont je vais parler, c'est Moment. Moment, un gros joueur Zerg qui jouait depuis la bêta chez Millennium, qui est parti chez Cybernation. Cybernation, une équipe... une grande équipe aussi de la scène française, mais peut-être un petit peu moins coté que Millennium. Il a justifié son changement parce qu'en fait, chez Cybernation, il pourra devenir joueur professionnel à part entière. C'est-à-dire qu'il sera payé à jouer à StarCraft 2, à aider un petit peu au Cybercafé.
Parce que qui est le rêve, bien sûr, de tout joueur.
De tout le monde. Quand même. Et de moi-même, je ne fais pas exception à la règle. Enfin, il devra quand même faire un petit peu de service au cybercafé, coacher les joueurs qui demanderont, peut-être faire un petit peu d'accueil, mais ça reste bien pour lui. Sinon, l'autre grosse nouvelle de ces temps-ci, c'est Todd, qui rejoint Millennium. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Todd, et honte à eux, c'est Johan Merlot, qui était sûrement le meilleur joueur français à Warcraft 3, voire même l'un des meilleurs joueurs mondiaux.
Ah, c'est un des plus gros palmarès. Hein.
Oui. Franchement, c'est un très gros joueur. Il est allé en jouer en Corée à Warcraft 3. Il a vraiment un très bon niveau. Et donc, il a décidé, je sais plus de quand ça date, à novembre-décembre de, de prendre StarCraft 2. Je vous invite à aller sur le site Millennium, vous trouverez l'interview et ses raisons du coup. Donc il a décidé de reprendre StarCraft 2, et comme il faisait quelques bons résultats, comme il l'a dit lui-même, plusieurs l'équipe l'ont approché. Il a fini par choisir Millennium. D'une part parce qu'il avait il jouait déjà chez Millennium à Warcraft 3, c'est-à-dire il y a très longtemps. Mais voilà, c'est une très bonne nouvelle pour Millennium qui comble ainsi le manque suite au départ de Moment.
Un perdu, Toad, c'est Protoss.
Oui, Toad joue Protoss.
Donc maman, sinon après je vous ai rien.
Oui. Donc juste après l'annonce de Toad, il y a eu l'annonce d'un nouveau Terran aussi chez Millennium, qui est Daystar. Daystar qui a quitté Empire, qui était une team russe. Bon, Daystar qui est un très bon Terran, je l'avais pas trop vu jouer avant qu'il rentre chez Millennium. Mais il a un très bon jeu, il joue très bien, une très bonne vision du jeu. Mais on pense qu'il a rejoint Millennium, enfin je pense qu'il a rejoint Millennium parce que Tarson avait rejoint aussi Millennium le 23 novembre. Et il faut savoir que Tarson et Daystar sont deux très grands amis qui se connaissent depuis longtemps, qui jouent ensemble. On a même parlé quand ils étaient encore dans la même équipe que Tarson était le mentor de Daystar lorsqu'ils jouaient encore à Broadwar. Donc voilà, ils sont très complices, ils se connaissent beaucoup, et c'est fort possible que Tarson ait poussé Daystar à venir. Parce que Empire est une très bonne team européenne, même si elle est un petit peu sur le déclin ces temps-ci. Donc ceci explique cela. Sinon, en un petit peu plus vieux comme nous, il y a Nerkio et Makoz qui rejoignent l'équipe AA. AA aussi qui est sur le devant de la scène française avec de très bons joueurs qu'on a beaucoup vu au début du jeu, comme Ores, Tuzer, Sarent, Ores et Shell PLC, excusez-moi, Sarent, Tuzer, Freeman, Kenzie. Donc là, ils accueillent de nouveaux joueurs, Nerkio qui est polonais, qui est un joueur aléatoire, qui est assez surprenant parmi les pro-gamers, mais qui a tout de même un jeu très solide et qui se débrouille très bien. Là, par contre, ça l'empêche de le faire quelques résultats parce qu'il est banni de l'ESL, l'Electronic Sport League, qui organise les plus gros tournois.
Alors comment ça se fait qu'il ait été banni justement de
l'ESL? Voilà. Je crois qu'il participait à une compétition, puis il a accumulé des points de pénalité parce qu'il a pas, il s'est pas présenté à des matchs, enfin ce genre de broutille. Et donc au final il s'est pris un bannissement de 3 mois.
Ah oui, quand même.
Oui, depuis je crois de décembre à mars de mémoire.
Oui, ça doit faire assez mal effectivement.
Ouais.
D'accord.
Donc c'est même possible, comme c'était début décembre, qu'il ait été recruté chez AA en connaissance de cause. D'accord. À savoir si le manager de l'équipe AA confirme ou pas. Mais il continue quand même à faire de très bons résultats, voire un très bon jeu. Ça n'empêche pas de faire les autres tournois disponibles. Je crois même qu'il se déplacera à la prochaine LAN internationale, enfin ça reste un très bon joueur. Et Makoz, qui faisait déjà partie de l'équipe AA, qui joue Zerg, il était déjà dans l'équipe de streaming. Il servait plus ou moins à AA, mais il avait un jeu très solide et ils ont décidé de le faire entrer directement comme joueur. C'est pas plus mal, je pense que ça manquait un petit peu de très gros jeux chez AA. Et donc là, ces deux nouveaux joueurs comblent très bien.
Ça fait deux joueurs polonais quand même qui rentrent dans les top teams françaises, des gros joueurs à gros potentiel.
En fait, il faut savoir que en France, on a de très bonnes teams au niveau du pro gaming, et c'est en fait un petit peu l'héritage de Counter-Strike 1.6 en fait, qui a lancé, enfin, il me semble que c'est ça, hein, qui a lancé en fait le pro gaming un peu en France.
En France, il y a Counter-Strike, il y a eu Quake aussi et Warcraft 3. Et sinon, oui, c'est ces plus gros jeux là qui ont lancé l'e-sport.
Moi, je me souviens de la team AA qui qui faisait des massacres sur la scène française de Counter-Strike 1.5 et 1.6. C'était... Ouais. Il faisait vraiment sensation à ce niveau-là.
Ils en font toujours dans d'autres jeux, sinon. J'en ai croisé quelques-uns sur Battlefield. Rien à voir en plus comme style de jeu dans Battlefield sur PlayStation 3.
Ah oui, carrément.
Donc, ils sont un peu présents partout. Donc.
D'accord. Non, mais ils continuent à faire de bons résultats. D'ailleurs, il y a l'équipe PVP de AA qui a fini championne du monde cette année.
Ah bon ? Alors ça, oui. J'approuve.
C'est un petit peu passé oui. À la trappe de tout le monde, mais c'était lors de la BlizzCon. Ils ont invité les meilleurs teams d'arène 55.
Ah, ça c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, c'était relativement souvent des... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais on va dire des Asiatiques qui gagnaient ce genre de tournoi.
Ah ouais, non, pas trop.
Enfin, oh, il y a... Alors moi, j'y suis allé en 2008 et en 2009, et il me semble que c'était ça.
Bah, le déséquilibre Orient-Occident est moins flagrant sur WoW que sur StarCraft ou Warcraft 3. T'as beaucoup plus de grosses teams européennes et américaines qui se défendent.
Ouais.
Alors que sur StarCraft 2, bon, bah, la suprématie sud-coréenne est indiscutable. L'équilibre est un peu plus présent sur l'arène dans WoW.
D'accord.
Voilà.
Donc on va te laisser continuer.
Non, ça c'est bon pour les news de transfert. Sinon, une autre news que tout le monde n'a pas relevé, mais que je décide quand même de partager avec vous, parce que on commence à voir des gros joueurs qui sortent de là. C'est l'équipe Mojawi qui fusionne avec Rising Star. C'est un petit peu des teams inconnues sur StarCraft 2 qui sont, je crois qu'elles sont quand même en division 2 de la SC2F, StarCraft de France, et la dernière compétition qui organise des clans war, c'est-à-dire avec plusieurs systèmes de match. Et donc Mojawi qui était en D2 a décidé de carrément fusionner avec une autre équipe pour pouvoir avoir une line-up compétitive. Et d'ailleurs on commence à avoir de plus en plus de joueurs Mojawi sur tous les tournois online. Il n'y a pas encore eu de gros résultats, mais ça commence à pousser. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc.
D'accord.
Sinon sur l'européen. J'ai pris les gros joueurs parce que sinon il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y a Matt Frog qui est un joueur Zerg qui était très bon à la sortie du jeu et puis qui a un petit peu arrêté de jouer ces temps-ci. Enfin, en tout cas, je l'ai pas trop vu, je l'ai pas vu de faire de résultats, donc je pense qu'il a arrêté ou qu'il a un petit peu freiné. Qui quitte SK Gaming. Il a trouvé que la team ne lui correspondait pas. Mais chose rare. Dans les transferts de joueurs, il n'est pas rentré directement dans une autre team, ce qui laisse penser qu'il pourrait du coup va se faire recruter par une autre. Je sais pas encore laquelle, mais ça pourrait être intéressant peut-être pour une team française. À voir.
D'accord.
Et sinon Demuslim, qui est un joueur Terran, si je me trompe pas, qui quitte MTW, Mortal Teamwork, qui est une team allemande, pour partir dans Evil Genius, qui est une team américaine qui a une line-up très compétitive avec entre autres Hydra, un très bon joueur Zerg. Ils font beaucoup de résultats, notamment au tournoi qui se déroule en Amérique, au Gross LAN. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais aussi un petit peu triste pour MTW. Qui du coup ne comporte que 3 joueurs, dont un seul qui fait des résultats, TW Daimaga.
D'accord. Alors, simplement, je ne sais pas si les gens ont entendu, mais il y a quelqu'un qui sera fouetté et tué sur la place du village ce soir. C'est Onizuka qui a laissé son téléphone avec sa sonnerie de Mario.
Je réclame la punition.
C'est pas Mario, c'est Sonic.
Ah oui, c'est vrai, c'est Sonic. C'est Sonic quand
tu reviens là-dedans. Bah, tu s'en fous de la matasse pour pas avoir reconnu, quoi.
Attends. Voilà, ça, il y aura un double meurtre ce soir.
Ah, je laissais un petit peu trop près du micro.
Voilà.
Ouais, sinon, pour revenir à Demuslim, c'est quand même un des plus gros joueurs britanniques. c'est un des rares mecs à avoir fait ses dents directement en Corée. Donc je pense que sur la scène nord-américaine, ça risque de bien gonfler le line-up Evil Genesis, qui va prendre un très gros joueur là.
Ouais, mais je trouve ça vraiment triste pour NTW qui reste juste avec un seul joueur. J'espère qu'ils vont pouvoir se refaire parce que c'était une équipe que j'aimais beaucoup et là du coup il leur reste un petit peu plus rien quoi.
D'accord. Et ben maintenant on va passer à la review un petit peu de l'équipe de France StarCraft 2 qui va être faite par Nerius.
Eh ben ouais, l'équipe de France de StarCraft 2, créée durant la bêta, donc c'était en mai de l'année dernière, 2010, par Kaoru. Alors je reviens un petit peu sur Kaoru, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il a été manager de la Team France StarCraft, premier du nom, pendant un peu plus de 5 ans, avant de partir en tant que joueur et manager sur Dota. C'est un joueur très important dans la communauté, il était là depuis quasiment le début, autant sur StarCraft que sur War 3. Il a un gros palmarès en tant que joueur et en tant que manager. Il est aussi à aujourd'hui le capitaine de la team AAA dont on vous parlait tout à l'heure. Donc Kaoru, mai 2010, à la bêta, à la demande des joueurs, crée la première team StarCraft France. Alors, c'est pas une structure officielle puisque l'e-sport c'est pas quelque chose de reconnu encore en France. Mais bon, elle regroupe quand même les meilleurs joueurs français. Elle porte nos couleurs dans toutes les matchs internationales, reconnues par tout le monde. Donc ça sera effectivement la seule et unique équipe de France de StarCraft 2 à nous représenter dans l'avenir. Alors, je reviens pas sur la compo originale parce que c'est pas tellement intéressante. Il y a peu de choses qui ont changé. La composition actuelle, on a 4 joueurs de chez AAA. Donc c'est Sarens, Tuzer, Kenzie et Freeman. Donc 2 Terran, 1 Zerg et Freeman qui joue Protoss. Un joueur, Benson, est toujours chez Légionnaire, qu'on m'arrête si je me trompe, ou il a changé de tag.
Je pourrais pas te dire.
Non. Bulnatic, Pony.
Je n'en sais rien du tout. Non. Je suis pas trop ce genre d'actualité personnellement.
Aux dernières nouvelles, Benson était toujours seul Légionnaire. Adèle que j'ai
Adèle
vu
Scott,
sous le tag.
Oui.
Adèle Scott, ouais, ça...
Adèle Scott, ouais, sous le tag WCREA. En Protoss aussi. Et enfin, 2 joueurs LDLC, donc c'est AG et Ores, qu'on voit souvent tourner sur les tournois français. Et 2 de chez Millennium, alors Stefano en Zerg, et Moment, bon, malgré son transfert, qui a toujours un pied à moitié chez Millennium pour le dernier StarCraft 2 France qui se déroule. Donc ça fait 4 joueurs de chez AA, 2 de Millennium, 2 de chez LDLC, 1 WCREA, 1 Légionnaire. Toujours une majorité de AAA, mais c'est un petit peu normal puisque Kaoru est capitaine, donc il les connaît peut-être un petit peu mieux. Les 2 joueurs de chez LDLC.com, donc Ores et AG, ils n'étaient pas au début, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est l'absence de plus de joueurs Millennium, comme par exemple Nex en Protoss, que j'aurais bien vu dans le line-up. Après, je crois que c'est à peu près tout. Oui, côté des races, alors 4 Terran, 4 Zerg, 2 Protoss, encore une fois, un troisième Protoss, par exemple Nex, aurait été pas mal. Donc ils sont sous-représentés en 1 contre 1. Je pense que pour les 2v2, par contre, pour les clans noirs, ça risque d'être un petit peu plus intéressant. Et dans une interview qu'avait donné Kaoru à Millennium, c'était courant de l'année dernière, un petit peu après le début de la bêta, il annonçait prévoir à peu près 10 ou 11 joueurs pour compléter le roster, le line-up France, à savoir qu'il se réserve le droit d'intégrer qui il veut et de sortir qui il veut en fonction des résultats, que ce soit en hausse ou en baisse. Je parle peut-être un petit peu aussi de la Coupe d'Europe qui a commencé le mois dernier.
Vas-y.
Ouais, la Coupe d'Europe, donc le NWL, European Nation War League, qui a commencé donc en décembre, actuellement en phase de poule. La France est deuxième du groupe D derrière l'Allemagne, qui a gagné donc contre la France à 4 contre 1. Devant la Croatie, l'Italie et le Portugal, le sixième pays du groupe D, c'était la Finlande, qui a déclaré forfait depuis, donc sans explication, en tout cas j'ai pas trouvé de raison à ça. Je pense que c'est le line-up qui n'était pas complet, qui pouvait pas aligner assez de joueurs pour assurer toutes les games. Le groupe D, donc pour l'instant la France est deuxième derrière l'Allemagne. Le premier du groupe D tombe contre le deuxième du groupe A et inversement. Pour l'instant, le premier du groupe C, c'est la Pologne, avec des joueurs comme on en parlait tout à l'heure, comme Nerkio ou Daystar. Donc à voir, il reste un match à jouer pour la France, deux pour l'Allemagne. Le plus intéressant serait quand même que la France gagne ces deux matchs et repasse première du groupe pour éviter d'affronter la Pologne en quart. Maintenant, une deuxième place reste quand même sympa, puisqu'on passe les barrages, on passe les poules. Et la suite, ça se jouera à la fin du mois, à la fin janvier. Donc ben, je vous tiendrai au courant dans le prochain numéro d'où en est la France en Coupe d'Europe.
D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette petite review bien complète tout de même. Onisgua, ça va être à toi de nous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment et dans la communauté relative à StarCraft 2, les sites de fans, etc.
Alors pour cette fois-ci, je vous ai retenu deux sites. Enfin, on vous a retenu deux sites. Donc OneHour et le concours de Judge Hive.
Alors simplement, tous les liens évidemment seront disponibles dans les notes de l'émission.
Donc OneHour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui vous permet de créer et d'organiser des tournois avec d'autres joueurs de StarCraft et il me semble de Brood War. Donc je vais faire un petit review. Quand vous arrivez sur le site, vous inscrivez tout simplement et vous aurez un petit bouton pour créer le tournoi. Là vous rentrez le nom, le jeu, une petite image, un petit résumé, etc. Il me semble que l'on peut. Ouais, on peut l'ouvrir.
Alors rapproche un peu de ton micro par contre, parce que là du coup on t'entend en bas.
Pourtant je suis à côté hein.
Vas-y, là c'est bon. Hein.
Ouais. On peut donner des restrictions au tournoi, donc le bronze, argent, or, platine, diamant, maître, et ils ont déjà prévu grand maître, choisir le type de match, BO3, BO5, BO1. Je ne sais pas si on peut limiter à des invitations, des limites de joueurs.
Alors, mais je ne sais pas non plus si on peut faire des matchs privés, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir limiter aux ligues, parce que l'intérêt c'est que ça permet aux bas niveaux, etc., qui peuvent pas aller se mesurer au tournoi de l'ESL, de faire ces tournois-là et de gagner 2-3 petits tournois. Alors bon, il y a rarement des prix à la clé, parce que ce sont des tournois amateurs, mais c'est un site intéressant.
C'était pas mal aussi qu'on peut mettre le stream de votre tournoi, donc vous avez un emplacement pour mettre un stream pour le tournoi. Vous pouvez indiquer le canal de discussion Battle.net pour lequel le tournoi va se dérouler. C'est vraiment pas mal fait. Vous pouvez aussi désigner 3 personnes, au moins un co-administrateur de tournoi. Donc si vous êtes plusieurs à organiser un tournoi, vous pouvez le définir.
D'accord.
Une fois que c'est fait, ça reste un type classique de bracket. Chaque joueur a son petit profil avec l'historique de ses tournois ou des tournois auxquels il a participé.
C'est intéressant pour les joueurs de. Ouais, vas-y.
Ouais, non, vas-y.
Ouais, je disais, c'est super intéressant pour les joueurs de bas niveau qui aimeraient faire de la petite compète. Ouais. Puisqu'ils peuvent s'incruster dans des tournois qu'ils n'ont pas organisés eux-mêmes et se trouver de la place et intégrer des brackets régulièrement. C'est vrai que c'est plutôt bien foutu.
Ou même si vous voulez organiser un tournoi, c'est nickel quoi. Puis par rapport au concours Judge Hive fête cette année ses 13 ans. Ouais, ça fait déjà 13 ans qu'ils existent. Ils organisent un tournoi pour chaque jeu qu'ils supportent, donc Diablo, World of Warcraft, Warcraft, Starcraft, et je pense que c'est tout. Je ne sais pas si ils en font. Et pour Starcraft 2. Je ne sais pas si pour Starcraft et Starcraft 2 si c'est un concours différent. Donc, à la clé du concours cette année, enfin, c'est la seule année qu'ils le font. Non, peut-être pas. Donc, à gagner un t-shirt pour un t-shirt BlizzCon 2010, un t-shirt BlizzCon 2008 et un livre à colorier StarCraft 2. Alors, livre à colorier, ça c'est épique quand même. Ça, je veux.
Oui, surtout lui, il va colorier StarCraft 2, j'imagine bien une petite fille de 5 ans en train de colorier des marines, des chitons du Zerg.
Et puis le papa qui arrive qui fait non.
Donc voilà, ça peut être... C'est assez sympa comme concours, mais ça c'est une habitude de chez Jojack d'être toujours bien appliqué dans la communauté, etc.
Ouais. Le concours est ouvert à tout le monde, tant que la seule restriction c'est de vous inscrire sur leur site. Et d'avoir une adresse email valide.
D'accord.
Le seul truc, c'est que le concours là est en train de se dérouler au moment où on enregistre.
Oui, donc.
Donc ça risque d'être un peu fâcheux pour l'inscription.
Et voilà, donc si vous nous écoutez actuellement dans le métro par exemple et que vous entendez qu'il y a un concours sur le site Jojype, ne faites pas demi-tour pour rentrer chez vous et voir ça. Vous serez sûrement.
Allez, quand même, déjà trop tard.
Alors, voilà. Si l'émission sort avant le 18, c'est jusqu'au 18 à 9h le matin.
Voilà, exactement.
Ouais, elle devrait sortir avant le 18. Normalement, ça devrait être bon. Ensuite, t'as deux astuces à nous faire. À nous montrer, il me semble, Nizuka.
Oui. Alors, pour les astuces, quand vous démarrez un match et que vous jouez en aléatoire, donc quand votre race est aléatoire, vous pouvez deviner votre race. Simplement en regardant le curseur de votre souris. Donc si le curseur est vert et noir, vous êtes Terran. Si le curseur est jaune-bleu, vous jouez Protoss. Et si le curseur est rouge-violet, vous jouez Zerg.
Alors il y a une petite précision à apporter à ça. Il y a certains joueurs sous certaines configs qui n'ont pas le curseur pendant le chargement. Ah. Moi ça me le fait pas, j'ai un ami à qui joue, à qui ça le fait. Donc, on postera sûrement une petite config à avoir, ça doit être dans les options du jeu, pour pouvoir voir le curseur durant le chargement.
C'est peut-être lié à l'option curseur matériel, ça, non ?
Voilà. Et puis ensuite, pour revenir un petit peu sur les chats de discussion, il y a une astuce liée à ça.
Un truc assez marrant, je ne sais pas si vous connaissez le co-level. Le co-level, c'est comment dire ?
Une sorte de running gag, oui, dans tous les jeux.
Voilà.
Enfin, surtout dans Diablo, en fait.
Oui, ça a paru dans Diablo. C'est une invention que les joueurs ont eue pendant Diablo 1. Hein. Et pour les joueurs, Blizzard a intégré le co-level dans Diablo 2.
Alors, le co-level, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'était dans le 1, en fait, les joueurs spéculaient sur un niveau...
Un niveau secret
qui en fait, n'existait pas et dans lequel soi-disant il y aurait des milliers de vaches qui se baladeraient.
Voilà.
En plus l'astuce était un petit peu bancale, il fallait aller chercher la jambe d'un cadavre à mélanger à des parchemins de portail pour ouvrir le niveau. C'était complètement surréaliste et c'était effectivement une rumeur qui datait du tout premier jeu. Et depuis
dans le 2, et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait donc, Nizuka, pour...
Dans StarCraft 2, ils ont rajouté un chat de discussion appelé le co-level ou le niveau de vache en français. Pour y accéder, c'est simple. Vous regardez quand vous êtes connecté dans le Battle.net, vous avez le logo StarCraft 2 au milieu en haut de l'écran, et juste en dessous, vous avez l'icône de Battle.net. Qui clignote un peu, vous cliquez très vite dessus, et là le channel de discussion va apparaître. Et la petite particularité, c'est que toutes les phrases que vous allez faire se termineront par me.
Donc on ne vous fera pas l'affront de vous faire une démonstration maintenant en disant me à chacune de nos phrases.
Ah mais bon,
ça peut vite faire des ça peut vite faire des discussions voilà, intéressantes, on va dire. Bon, on a bien explosé le compteur pour la partie news, puisqu'on en est environ à une heure pour la partie news. C'est pas grave. Ouais. On fera plus court la prochaine fois. C'est pas grave.
Faudra faire plus court la prochaine fois. Et là, il y en a des gens là-bas, quelques-uns qui se sont endormis.
Oui, voilà.
On est toujours là.
Bon. Et ben, on va les réveiller avec Lunatic qui va nous parler d'une map très très fun, on va dire. Donc, c'est dans la catégorie le mode du jour.
Donc alors Raynor Party, c'est un mode créé par, bougez pas, j'ai les noms quelque part, par Seiken, pour le moment, j'ai pas l'impression que ça soit des joueurs connus. Donc ils ont créé cette map vers début octobre, si je me souviens bien. Et en fait, le but de cette map, c'est des mini-jeux. Donc vous l'aurez remarqué avec le titre qui fait référence à Mario Party. Le but, c'est de s'affronter à plusieurs sur des mini-jeux entre amis. Où là, étant donné que la map marche très bien, vous pouvez la trouver en cliquant sur multijoueur, rejoindre dans partie personnalisée, et elle est encore à la une parce qu'elle est très populaire. Donc la map est composée de 10 mini-jeux. Je vais les faire et non, je les ai pas dans l'ordre, c'est pas grave. Donc enfin moi les jeux que je préfère, c'est en troisième place je vais mettre celui de la sentry. Donc le but, vous contrer une petite sentinelle, l'unité Protoss, qui sert un petit peu à rien à part faire des champs de force pour empêcher soit les gens de rentrer ou de sortir. Donc là le but du jeu, c'est vous êtes sur une carte avec une sorte de labyrinthe mais avec plein d'entrées, hein, vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes avec vos copains sentries et là il y a plein de bendings qui déboulent partout.
Donc les bendings sont les chancres.
Ouais. Et ils essayent de vous tuer. Enfin, pas vraiment de vous tuer, c'est juste ils essayent d'aller sur les points rouges qu'il y a, comme ceux des bombes nucléaires, Terran. Donc ils se dirigent vers là. Toutefois, s'ils croisent une sentinelle en chemin, ils vont essayer de l'attraper. Donc c'est un jeu que je trouve très marrant, très stratégique. On dirait pas comme ça, mais du coup vous pouvez bloquer vos adversaires avec des champs de force, les attraper. Enfin voilà, c'est très stratégique, c'est un jeu que j'aime beaucoup. En deuxième place, je mettrai un jeu qui est arrivé avec la dernière mise à jour. Je me souviens pas le nom exact, mais ça se joue avec les Hélions, ou les Tourmenteurs en version française. Donc vous avez un missile, toutes les 6 secondes je crois, et le but est de tuer les adversaires avec, sachant qu'ils peuvent se déplacer, avec Tourmenteur qui est quand même une unité rapide. Donc ça se joue comme ça, vous devez envoyer le missile, vous pouvez vous cacher derrière des obstacles. Et un petit peu à la Pac-Man, vous pouvez ramasser quelques items qui vous permettent de faire différentes choses. Un qui améliore votre vitesse, un autre qui vous permet de tirer un missile plus fort et qui traverse les obstacles. Un autre qui vous rend invisible. Enfin voilà, c'est plus un jeu de micro-gestion vu qu'il faut à la fois tirer ses missiles et... Excusez-moi, je viens d'en tuer un là d'ailleurs. Il faut à la fois gérer ses missiles et éviter ceux des autres. Et donc le jeu que je mettrai en première place, dont je suis absolument fan, je le refais en boucle avec mes amis, je ne dirais pas que je suis imbattable dessus, mais je suis en très bonne position. C'est celui avec le Templier Noir, les Templiers Noirs.
T'es sûr.
Il est super celui-là.
Ouais. Donc le but de celui-là, c'est de... Vous êtes sur une plateforme, avec au milieu une plateforme un petit peu plus élevée, et tout autour du vide. Et le principe est de pousser vos ennemis dans le vide, avec... vous avez trois sorts à votre disposition. Le Blink, c'est-à-dire en version française le transfert, pour vous déplacer. Un Bumper, je sais pas comment le traduire ça,
un pousseur. Oh, oui, qui en fait c'est une sorte d'attaque de zone qui éjecte tous les gens qui sont dans la zone.
Voilà. Sachant que plus vous êtes prêt, plus ça vous expulse loin. Donc il y en a un à distance, avec un cooldown de 10 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc à distance, c'est à vous de décider où vous voulez le lancer. Et puis un autre au corps à corps, un petit peu plus puissant, mais plus dur à placer vu qu'il est au corps à corps. Donc là, pareil, vous devez éviter de mourir tout en tuant les autres. Je crois qu'il est encore plus stratégique que la sentinelle. Il y a plein de combos, on va dire. Genre le blink plus bumper au corps à corps. Enfin, c'est vraiment celui que je préfère, il est très fun à jouer. Vous pouvez faire des alliances, vous allier contre quelqu'un, enfin c'est vraiment...
Quand on est très fourbe comme toi, mais sinon on joue à la régulière. Est-ce que, alors moi par exemple, il y a un jeu que j'aime aussi beaucoup, c'est celui où on a un stalker. Alors, ce n'est pas une blague, hein, je tiens à le dire, ça paraît très bizarre. On a un stalker qu'on contrôle, on a à notre disposition un blink, on est dans une arène fermée, et il y a un ultralis qui vous court après. Et en fait, il court sur le stalker qui a l'ananas, ou c'est un pamplemousse, je ne sais plus, sur la tête.
Ananas.
Ananas, ouais.
Et donc, le but du jeu est de laisser l'ultralis se rapprocher de vous et de lancer l'ananas sur le stalker qui est à côté de vous pour qu'il se fasse découper par l'ultralis. Alors comme ça paraît complètement improbable, mais c'est probable. Et c'est très sympa comme type de jeu à jouer. Alors est-ce que par exemple toi Onizuka ou toi Nerius, vous avez un type de jeu qui vous a plu?
Alors moi j'en ai un et il me fait marrer puisqu'il a aucun rapport avec le jeu en lui-même. C'est celui avec Tassadar. C'est un jeu d'écriture au clavier. Tous les joueurs sont en face de Tassadar qui donne une phrase qui demande, il faut donc la retaper lettre pour lettre sans faire de faute. Si on fait une faute, on est éliminé directement. Et je crois si on est le dernier parmi tous ceux qui ont répondu correctement, on perd la moitié de sa vie. Si je dis pas d'erreur. Donc on est sanctionné à moitié pour la lenteur et on est sanctionné directement pour une phrase mal écrite. Et j'ai trouvé ça super marrant puisque justement ça n'a aucun rapport direct avec les mécaniques de jeu habituelles.
Alors ce qu'il faut savoir c'est que les phrases commencent par des choses simples genre « Hello my friends » et ça termine par des phrases de 8 pieds de long. Donc ça fait des choses assez marrantes et le mieux c'est d'être sur un vocal avec vos amis quand vous jouez à ça. Et d'écouter les gens qui font comme ça quand ils essayent d'écrire leur truc, ça fait vraiment des parties très sympas.
Ils font de drôles de bruit, tes amis.
Oui, mes amis sont des lémuriens, vous devez le savoir. Donc, bon, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour de la Raynor partie. Donc, vous pouvez retrouver cette map, Bulle.
Vous pouvez la retrouver, elle est très facilement trouvable. Vous allez dans partie personnalisée. Vous allez dans rejoindre et là carrément elle est en première page dans les cartes à la une parce que Blizzard a décidé de promouvoir quelques cartes créées par la communauté. Très bonne initiative je trouve. Et donc là vous pouvez la trouver facilement.
D'accord. Donc on va tout de suite passer à la partie histoire avec aujourd'hui pour ce tout premier épisode. L'histoire des Terran. Alors, l'histoire des Terran. Alors, les Terran, comme vous pouvez vous en douter en entendant leur nom, ils sont issus donc des habitants de la planète Terre, c'est-à-dire nous, peut-être, que dans quelques centaines d'années, voire quelques dizaines d'années, on ira dans l'espace. Peut-être pas tout de suite, mais on verra. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que sur Terre, il y a eu une sorte de mécanisation en fait du genre humain. Et il y a eu une congrégation de tous les pays de la Terre qui ont décidé d'épurer un petit peu l'ADN humain. Alors dans ce but d'épuration, il y a donc beaucoup de prisonniers qui ont été faits, de personnes qui ont été tuées. Et il y a un scientifique qui a décidé d'utiliser ses prisonniers en tant que cobayes pour les envoyer un peu de partout dans la galaxie et coloniser de nouvelles planètes. Donc ils ont envoyé en fait ces colons, qui sont donc des prisonniers, durant des longs voyages spatiaux pour qu'ils aillent développer des nouveaux mondes. Et il y a un de ces voyages qui s'est pas très bien passé puisque les vaisseaux ont subi une avarie en fait pendant leur voyage et ils ont perdu les données de la Terre de destination et de la Terre de départ, donc de notre planète Terre. Et ils ont ces vaisseaux en fait sont débarqués dans le secteur de Coprulu. Alors donc les Terran très très forts et très intelligents reconstruisent une sorte de civilisation dans ce secteur de Coprulu. Et il y a un organisme qui apparaît qui s'appelle la Confédération. Alors le problème c'est que cet organisme donc qui gère toutes les colonies Terran est totalement corrompue. Et il y a donc des organisations rebelles qui se monte autour de la Confédération pour en fait assaillir la Confédération et l'arrêter. Parmi ces rebelles, il y a le fameux Jim Raynor, que l'on connaît bien, car il est le héros de la campagne de StarCraft 2, Wings of Liberty. Alors, je tiens à dire que moi, je n'ai pas joué à StarCraft 1, et je vais rattraper ce manquement très prochainement, parce que je l'ai commandé. Donc, comme ça, j'aurai toutes les informations. Oui, tu disais.
Je peux bien répondre. Au départ, il n'était pas du tout dans les rebelles, Jim Raynor.
Oui, il était Marshall pour la
Confédération. Ouais. Oui, il était à fond dans la Confédération. Il a juste arrêté quand les Zergs ont attaqué.
Ouais, quand il a vu
que la Confédération faisait que dalle. Et puis après, il a rejoint les rebelles de l'autre débile.
Oui, donc il y a des Zergs qui débarquent. Alors pour l'instant, c'est le premier contact en fait avec les Zergs. Alors les Terrans se font évidemment totalement au début exploser par les Zergs. Et puis il y a des gigantesques vaisseaux Protoss qui apparaissent autour d'une zone qui s'appelle Chosara. Chosara, c'est une planète colonisée, et ils carbonisent la surface de Chosara. Donc là, c'est branle-bas de combat chez les Terrans, et la Confédération n'a jamais vu une façon d'agir aussi violente de la part des Protoss. Les Terrans décident d'aller attaquer les Protoss, mais à l'arrivée des croiseurs, les Protoss disparaissent et battent en retraite.
Ah, juste pour préciser, dans l'histoire, les Protoss en ont complètement rien à faire des Terrans. Oui. Ils font une fixette sur les Zergs et se foutent des dégâts collatéraux. Donc quand ils débarquent, c'est uniquement pour annihiler la présence Zerg.
Ils ont cramé carrément une planète où il y avait pas mal de Terrans qui étaient encore dans le coin.
Voilà.
Alors, sur un monde adjacent à Chosara, il y a une planète donc, qui s'appelle Marsara. Et sur Marsara, il y a le Space Marine que l'on connaît bien, donc Jim Raynor. Alors Jim Raynor, il vient défendre un camp Terran, il est confronté aux Zergs. Et le problème des Zergs, c'est qu'ils sont très puissants et c'est une race qu'ils ont encore très peu vue. Raynor, il comprend qu'il n'arrivera pas à sortir de là, lui, et en même temps sauver le camp Terran dans lequel il est. Du coup, il s'enfuit. Et il arrive à s'en sortir, finalement. Alors, il faut savoir que Jim Raynor, c'est un ancien donc de la Confédération. Donc, la Confédération, on le rappelle, qui est une organisation très despotique qui régit un peu la vie des Terrans, qui est dirigée donc par Arcturus Mengsk. Arcturus Mengsk qui m'a l'air un peu d'ailleurs désaxé.
C'est un peu fou.
Voilà, bon, c'est...
Non, au départ, il luttait aussi contre la Confédération. Il disait que c'était mal et tout, mais quand au final il a réussi à avoir le pouvoir, il a un petit peu pété les plombs. Il est devenu comme la Confédération.
Alors, Jim Raynor, il a travaillé avec une certaine Kerrigan. Alors, Kerrigan, aujourd'hui, on la connaît comme la Reine des Lames, donc celle qui dirige les Zergs. Alors, il a travaillé donc avec Sarah Kerrigan, qui est une Ghost. Alors une Ghost, vous savez, c'est des unités d'élite invisibles qui utilisent des pouvoirs un petit peu spéciaux et qui, voilà, des fantômes et qui donc servent à faire de l'infiltration, des choses comme ça dans les lignes ennemies. Alors il y a un souci avec Sarah Kerrigan. Elle va être abandonnée sur une planète à la merci des Zergs. Et donc les Zergs vont la transformer en leur reine des lames. Alors est-ce que vous avez des... Comment dire, plus de... Pourquoi les Zergs ont fait ça, à votre avis?
Oui, parce que tous les Zergs sont contrôlés par le Maître Esprit. C'est un énorme organisme qui est le cerveau, entre guillemets, de tous les Zergs. Et qui essaye, pour affronter les Protoss et les Terrans, d'utiliser un représentant de la race pour essayer de savoir comment ils pensent pour mieux les contrer.
Ah voilà, donc le Maître Esprit, c'est une créature assez puissante qui donc dirige tous les Zergs au moyen de pouvoirs télépathiques et qui les dirige aussi via des intermédiaires que l'on connaît bien, qui s'appellent les Dominants. Vous savez, ces trucs très lents, dégueulasses, qui vomissent un peu de partout quand vous jouez à StarCraft 2. Mais le Maître Esprit... Oui, vas-y.
le maître esprit, il me semble qu'il n'est pas mort, justement, dans plus ou moins dans StarCraft 1, et qu'il aurait justement donné sa vie pour créer Kerrigan, d'après ce que j'ai compris.
Sans spoiler, on le revoit dans la campagne Wings of Liberty.
On le revoit dans la campagne Wings of Liberty, et il s'explique plus ou moins la raison pour laquelle ils ont créé Kerrigan. Ce serait pour justement combattre les hybrides, non ?
Oui, pour combattre les hybrides. Alors les hybrides, on reviendra dessus parce que c'est encore autre chose.
Donc, en fait, sans dévoiler totalement la campagne, il s'est sacrifié comme but. Enfin, il avait comme but de créer Kerrigan pour une raison qu'on ne dévoilera pas pour spoil. Et donc, une fois qu'il a réussi à créer Kerrigan, ben il est mort.
Alors, voilà. ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Kerrigan donc, va être transformé en Reine des Lames donc, par le Maître Esprit, parce qu'elle a des dons, comme on a dit précédemment, qui intéressent, on va dire, les Ergs. Donc, elle devient la Reine des Lames, et donc, elle appartient aux Ergs, et dans son esprit, elle n'est plus du tout affiliée au Terran. Pendant ce temps-là, il y a Zeratul. Alors, Zeratul, c'est un templier Protoss qui peut être assimilé un peu au chef de guerre des Protoss, qui va parvenir à abattre ce que l'on appelle un Cerabrat. Alors un Cerabrat, c'est ce qui permet au maître esprit de contrôler les Ergs. Les Ergs vont donc s'entretuer et le maître esprit va donc décider d'aller mettre la pâtée aux Protoss. Parce que bon, ça l'a un peu emmerdé d'avoir eu autant de Zer qui se sont tapés dessus. Et donc il va aller attaquer Ayur. Ayur qui est le monde natal des Protoss. Donc, grâce à la corruption de Kerrigan qui est donc devenue la reine des lames, ils arrivent à assimiler des Terrans pour en faire des troupes. Donc c'est-à-dire qu'ils arrivent à corrompre des Terrans qui viennent combattre contre les Protoss, qui eux ont colonisé énormément de coins dans l'univers. Alors on va maintenant passer un petit peu à l'histoire de Ayur, puisque je n'ai parlé juste avant. Alors Ayur, c'est le monde natal des Protoss. Donc Kerrigan va repousser les Terrans et les Protoss qui sont venus sur Char. Pendant ce temps, lui, le Maître Esprit s'implante sur Ayur, dans la planète natale des Protoss, et commence l'invasion Zerg. Alors il y a une autorité suprême des Protoss qui s'appelle le Conclave, qui va ordonner à Tassadar. Tassadar, on en a parlé dans la raid en partie, revenez 5 minutes avant si vous ne vous souvenez plus qui c'est. Donc qui va ordonner à Tassadar de protéger Ayur. Donc Tassadar, il va faire alliance avec des Templiers noirs, qui est une caste un peu dingue, considérée comme dingue chez les Protoss, et qui sont un peu en conflit avec le Conclave. Il les fait revenir sur Ayur, et il va les faire combattre à ses côtés. Pendant ce temps-là, les forces de Raynor, donc Jim Raynor, le rebelle, Tassadar et Atanis vont s'allier, et ils vont partir donc tous ensemble sur Ayur pour aller contrer l'invasion Zerg lancée par le Maître Esprit. Alors, tout ce passage-là, vous le jouez durant la partie, durant la campagne de Wings of Liberty. C'est-à-dire que vous jouez non seulement la vie de Jim Raynor, et en plus, il y a un moment où Zeratul apparaît et il vous donne la possibilité de jouer également les moments, les campagnes, une partie de la campagne Protoss. Alors, la campagne Protoss, je pense qu'elle fera l'objet d'une extension, donc là, c'est seulement un petit bout auquel on a droit, mais c'est assez intéressant. Finalement, les Ergs arrivent à progresser de plus en plus vite vers Ayur. Et Tassadar va réussir quand même à en tuer une bonne partie. Mais il va quand même il me semble que Tassadar va y laisser sa peau. Est-ce que vous confirmez ?
Oui.
Oui, voilà, donc Tassadar va y laisser sa peau, mais il va quand même détruire une bonne partie des troupes Zerg. Et Ayur, la terre natale des Protoss, est totalement détruite par les Zergs. Donc Kerrigan va reprendre le contrôle de l'essaim Zerg, et c'est ainsi que s'achève StarCraft 1. Donc là, j'ai dit pas mal de choses en peu de temps. J'espère que c'est assez clair. Mais finalement, on a résumé un petit peu l'arrivée des Terran dans le conflit intergalactique avec les Protoss et les Zerg. Les Zerg qui décident d'annihiler les Terran et les Protoss. Les Terran et les Protoss qui s'allient. Et finalement, Ayur qui tombe face à la puissance Zerg. Et Kerrigan qui prend le relais du maître esprit à la fin de StarCraft 1. Et donc on passe maintenant à la partie fourre-tout, qui est d'ailleurs un nom assez bizarre et tendancieux, qu'on ne relèvera pas. Alors dans la partie fourre-tout, on a...
Trop tard.
Trop tard, et franchement, il n'y avait que toi qui avais fait le rapport. Hein.
Dans la partie fourre-tout, on a... Alors pour commencer, on a deux vidéos. Alors je vous mettrai le sonore dans le podcast. Alors on a une vidéo qui s'appelle Bennings. Alors Bennings, c'est une vidéo qui parle donc de chancre. Alors vous avez un super chanteur qui s'appelle Kurt Hugo Schneider. Alors c'est le nom de sa chaîne. Lui, son nom, on sait pas. Et il fait une chanson avec un bonhomme qui commente aux États-Unis pas mal de matchs StarCraft 2. Alors moi j'aime pas trop la façon qu'il a de commenter. Il s'appelle Husky. Et Husky et Kurt Hugo Schneider nous font une chanson sur les Bennings, sur une reprise de Justin Bieber, la chanson Baby. Si quelqu'un veut la fredonner, faites-le, mais moi je ne sais pas.
Non, mais par contre, j'aimerais bien dire que je les déteste parce qu'à cause d'eux, j'apprécie une musique de Justin Bieber maintenant.
Oui, voilà, mais c'est comme quoi, c'est juste les paroles qui sont débiles, la musique est bien en fait.
Ouais. Donc. C'est surtout pour les paroles, quoi.
Que j'aime. Voilà. Donc la deuxième vidéo, c'est aussi. Alors, une vidéo de Husky et son pote Kurt Hugo Schneider. Et ça raconte une histoire d'amour entre deux SCV, car vous devez le savoir. Les SCV sont doués de sentiments qui, dans leur petite carapace, avec leur petite visseuse, là, petite perceuse. Donc ils sont tous les trois sur la place. Alors je dis tous les trois parce qu'il y a une troisième personne qui participe à la vidéo. Je sais pas trop ce qu'il fout là, mais c'est sympa quand même. Donc ils sont tous les trois, les cheveux dans le vent, ils marchent sur la plage et ils racontent leur. Ils courent vers le soleil et c'est magnifique. Ensuite, il y a une machinima qu'on a trouvée très sympa. Alors en fait, elle est pas spécialement excellente, incroyable, épique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la folie des machinima qui a touché WoW pendant longtemps, l'activité descend un petit peu, mais reste quand même assez importante, touche aussi StarCraft 2. Donc là, vous avez un trailer en fait pour une machinima qui sortira prochainement, qui s'appelle The Lost Templar Archives. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais en tout cas ça a l'air balèze, il y a de la baston, de la bonne musique. Donc je pense que tout le monde aime ça.
Je pense qu'il explique au début de la vidéo de quoi ça parle. Le seul problème c'est que pendant les deux premières minutes,
oui.
Pendant la première minute je dirais,
c'est
un écran noir. Donc oui. Personnellement moi j'ai zappé. Quoi.
Ah oui, il faut passer direct que la vidéo commence à 1 minute 10 à peu près.
Voilà, sur 2 minutes.
Alors vous verrez qu'il y a des effets, enfin je trouve que l'image est bien léchée, il n'y a pas trop de lag, on aurait pu s'attendre à ça. Il y a des voix assez cool, les décors sont sympas, enfin c'est quand même bien foutu. Il manquerait plus qu'ils aient une bonne histoire et ça irait bien, donc on verra ce qu'ils en font. Dans la partie fourre-tout, on a également, alors ça je vais laisser Onizuka en parler, un tournoi. Vas-y, je te laisse en parler.
En novembre, nous avions organisé, j'avais organisé sur Twitter le Twitter Tournament, qui ressemble en gros des joueurs de StarCraft qui ont un compte Twitter. C'est pas grand chose à dire, c'est un petit tournoi entre nous pour le fun. Donc le tournoi va être relancé ce mois-ci. Au mois de février, donc normalement le 6 février, je vais y arriver.
D'accord.
C'est ouvert à toute personne qui possède un compte Twitter. Pour le moment, c'est pas encore trop parce que je vais organiser ça avec un autre joueur. Pour le moment, c'est pas trop s'il va y avoir, si ça va être du 2 contre 2 ou du 1 contre 1. C'est encore, la question est encore en suspens. Il y a aucune modalité d'inscription à part le fait d'avoir Twitter. Un blog sera créé pour vous tenir à jour. Et il y aura bien entendu un live stream.
D'accord. Donc, bon, on nous en reparlera.
Je voudrais juste dire que la personne avec qui je fais ça, c'est Manoz sur Twitter.
@Manoz, donc, que vous pouvez retrouver sur Twitter.
Et moi, c'est Onika.
C'est gratuit.
Alors, on fera...
T'essayes de gratter du follower, là, non?
Non, non, on fera notre pub à la fin. Et donc, ensuite, il y a... Alors, ça, c'est Bulnatic qui avait apparemment envie de parler de ça. D'un semi-coup de cœur... Alors je dis ce qu'il a mis, hein. Semi-coup de cœur, Zapcast numéro 15 avec une interview de Pomfétude. Ouais, alors d'abord, voilà, explique qui est peut-être Pomfétude.
Ah, Pomfétude.
Pomfétude, pour les deux derrière là dans la grotte qui connaissent pas, c'est des frères qui sont en fait, ils ont décidé de commenter du StarCraft 2. Je vais pas leur expliquer leur histoire vu que c'est dans l'interview. Mais ils ont une chaîne YouTube et puis ils prennent comme ça des très bonnes parties de StarCraft 2, puis ils les commentent de façon plus fun que sérieuse, mais
ah oui,
c'est quand même intéressant à voir.
C'est essentiellement des vidéos qui s'adressent à des joueurs qui ont envie de se taper une bonne barre quand le matin ils ont flemme de se lever. C'est pas très précis, ça c'est sûr, ils loupent 2-3 petites choses, c'est pas toujours très intéressant leurs commentaires, mais c'est drôle, c'est de la bonne humeur tout ça, donc c'est très sympa.
C'est amusant à voir, puis généralement ils ont du bon goût, c'est de très bonnes parties, donc
en général ils commentent
un peu. Aller les voir.
Ouais, il y a quelque chose comme 200 vidéos sur la chaîne YouTube, donc il y a de quoi faire. Hein.
Et puis il y a aussi des tutoriels, donc des BO, donc des build order, donc ça vous explique un petit peu comment partir quand vous commencez avec une race pour par exemple faire un fast banshee, faster, fast, je sais pas trop quoi. Donc c'est assez sympa. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Pomfétude?
Eh oui, j'ai pas parlé de mon podcast.
Ah merde.
Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, nowatch.fm, c'est un site qui centralise plein de bons podcasts, de très bons podcasts, même, on peut compter Geek Inc. dedans, Scud, et donc le Zapcast, avec le numéro 15, qui ont réalisé une interview exclusive de Pomfétude. Expliquons pourquoi ils font ça. Donc, je vous invite à aller la voir.
Voilà. Et c'est un GG.
Ouais.
Et oui, GG, on va pas
s'attendre un petit
on
peu.
On peut pas s'énerver plus que mesure. Mais bon, allez, pour les fans.
Oh, GG!
Donc voilà.
Et c'est le GG! 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 Et
qui reste
cool? Et c'est le GG!
Et c'est le GG!
GG de Q! GG! Et Malfroid qui quitte la partie!
Bon, ce podcast touche enfin à sa fin. Donc, pour l'instant, au compteur de l'enregistrement, j'ai 1h40. On verra combien de temps ça donne après montage, éviscérage et rajoutage de jingle en tout genre. C'était notre premier épisode. On attend des feedbacks, on attend des commentaires. Donc, vous pouvez nous envoyer des mails. Donc, à contact@starcast.fr. Vous pouvez suivre le compte Twitter de StarCastFR, donc c'est @StarCastFR, et vous pouvez, alors on va faire un petit coup de pub chacun notre tour, nous retrouver respectivement, donc moi sur Twitter je suis @AntoninArthaud, il y a aussi @Bulnatic que vous avez entendu donc pendant toute cette émission, @Onizuka et @Nerius, alors tous ces comptes Twitter vous pouvez les retrouver dans la partie équipe du site. On va mettre à jour d'ailleurs parce qu'il me semble qu'elle n'est pas tout à fait à jour. Et envoyez-nous des sous si vous voulez, mais je suis pas sûr.
Envoyez des sous.
Non, vous n'enverrez pas des sous, mais envoyez-nous des commentaires, des petites choses comme ça. Pas forcément pour nous dire que c'est génial ou que c'est pas bien, mais surtout pour nous dire pourquoi vous trouvez que c'est génial ou pourquoi vous trouvez que c'est pas bien. Si vous trouvez que c'est trop long, mais ça je pense qu'on s'en doute. Et puis voilà, 2-3 petites choses comme ça. La semaine prochaine, on essaiera de faire participer le peu d'auditoires que nous aurons. On verra bien si ça a marché ou pas le premier épisode. Alors non, pas la semaine prochaine, dans deux semaines, car en fait, on fera ce podcast deux fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Je pense avoir dit à peu près toutes les informations importantes. Si vous avez des messages à faire passer, allez-y.
Écrivez à l'arc.
Voilà, par exemple. Alors, est-ce que
attends, si on a faire... des si on a des joueurs de entre guillemets haut niveau qui ont envie de parler de leur expérience, de nous faire des retours, qui aimeraient participer, pourquoi pas aussi.
Oui, pourquoi pas, oui, parce que
faites-nous signe.
Voilà, faites-nous signe, parce que pour l'instant on a seulement Bunadi qui nous met la tête dans les forêts si on joue contre lui, je pense. Donc si vous voulez participer au podcast, si vous voulez nous dire deux trois petites choses, si vous voulez nous dire oh là là, vous avez pas parlé de ça dans le patch 1.2, bah allez-y, n'oubliez pas de, enfin vous pouvez le faire, envoyez-nous un petit commentaire, un petit message, un petit mail, un petit ce que vous voulez, un DM sur Twitter, et on le prendra en compte pour la prochaine émission. Je pense que cette fois-ci on a fait le tour, alors on va demander simplement le mot de la fin pour tout le monde. Alors toi Nerius, qu'est-ce que ce serait ton mot de la fin?
Bah mon mot de la fin, j'ai envie de dire vivement dans 15 jours pour la suite. Puisque ce démarrage est plutôt pas mal, je trouve.
Bah yo.
Et j'espère que ça aura plu à ceux qui sont encore là après 2 heures.
D'accord. Toi Onizuka, ton mot de la fin?
Poulet.
Poulet, voilà. Alors
je plus sois poulet.
Il y a des personnes en blouse blanche qui viendront sûrement le chercher demain matin, qui l'emmèneront dans un endroit très sympa, que l'on appelle Asile, et vous verrez.
Mais j'y suis déjà, hein.
Oui, c'est vrai, il y est déjà, en direct, de là-bas.
La magie du web.
Bunati, est-ce que t'as un mot de la fin?
Bah, choucroute.
Voilà, donc choucroute, poulet.
Poulet, choucroute. Il y a un thème récurrent, on dirait.
Voilà, ça doit être... bah écoutez, il est... Non, 18h10, non, c'est...
Ouais, mais je mange à 19, hein, moi.
Eh bien moi, mon mot de la fin, ce sera churros, pour rester dans le ton, n'est-ce pas? Et donc on vous dit à tous et à toutes, parce qu'on est... Ah oui, petit message avant la fin, si il y a une fille qui nous écoute et qu'elle a envie de participer un petit peu, surtout qu'elle n'hésite pas à nous envoyer un...
Ça n'existe pas, les filles sur StarCraft 2.
Bah écoute, j'ai cru moi aussi pendant longtemps à cette légende qu'il y avait des filles sur StarCraft 2, et j'y crois encore. Donc on verra bien s'il y a une fille qui existe dans ce monde de Space Marine... sanglant, mais donc il y a une fille, tu peux nous contacter, toi la fille, et ouais, la fille qui joue à StarCraft 2.
Ça va lui donner envie de venir.
Voilà. Et bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne, très bon jeu dans StarCraft 2. Et puis à dans deux semaines. Bye bye. Bye.
Salut.
Là, je mettrai un fond sonore.